Je ne sais pas si vous aimez la littérature fantastique et ou de science-fiction. Je sais qu'il y en a qui aiment. J'ai vu Mélanie. Alors moi, je suis, évidemment, j'aime beaucoup tant la littérature fantastique que la littérature de science-fiction. La littérature et les films fantastiques et de science-fiction. Ça doit être pour ça que j'aime le livre d'Ézéchiel. Parce que Ézéchiel, c'est vraiment un prophète étonnant. Il a de nombreuses visions qui ne dépareilleraient pas dans les scènes de plusieurs films fantastiques. Et le texte que je vous invite à lire ce matin, un texte bien connu, sans doute qui est cité plusieurs fois, mais qui a vraiment cet aspect étonnant et fantastique, c'est dans le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel, et nous lirons les versets 1 à 14. La main du Seigneur fut sur moi. Le Seigneur me fit sortir par un souffle et me déposa au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Ils étaient très nombreux dans la vallée et ils étaient très secs. Il me dit, humain, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, parle en prophète sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit le Seigneur Dieu à ces ossements. Je fais venir en vous un souffle et vous vivrez. Je placerai sur vous des tendons, je ferai pousser de la chair sur vous. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un souffle, vous vivrez. Et ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais en prophète, selon ce qui m'avait été ordonné. Et comme je parlais en prophète, il y eut un bruit. Il y eut un frémissement et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait sur eux des tendons, la chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, parle en prophète sur le souffle, parle en prophète humain. Tu diras au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués et qu'ils revivent. Je parlais en prophète comme il me l'avait ordonné, alors le souffle vint en eux. Ils reprirent vie et se tinrent debout sur leurs jambes. C'était une très grande armée, une armée immense. Il me dit, humain, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. À cause de cela, parle en prophète. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, j'ouvre vos tombes et je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Ainsi vous saurez que je suis le Seigneur. Lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre et ainsi vous saurez que c'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et agi. Déclaration du Seigneur. Essayez d'imaginer la scène. Mettez-vous à la place d'Ézéchiel. Au milieu d'une vallée qui est remplie d'ossements desséchés. Et puis, il parle. Anne-Rose parlait au pince à linge. Là, il parle aux ossements desséchés. C'est pas mieux, hein. Et là... Les os commencent à bouger, se rassembler, et puis il vient dessus des tendons, des nerfs, de la chair, de la peau. Imaginez la scène. C'est une vraie scène d'un film d'horreur. Et on n'est pas dans Frankenstein, on n'est pas dans la nuit des morts vivants ici, hein. On est dans une vision du prophète Ézéchiel, prophète de l'exil, 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est un vrai cauchemar. Le début. C'est un vrai cauchemar au début. Mais cette vision se transforme petit à petit en un rêve extraordinaire, un rêve d'espérance. Lorsque Ézéchiel, le prophète, reçoit cette vision du Seigneur et qu'il écrit ce texte qui nous est parvenu, le peuple d'Israël, ou plus précisément le peuple de Juda, royaume du Sud, est en exil. Ils sont en exil à Babylone. Les Babyloniens ont envahi la région, c'est le peuple dominant. Ils ont profané le temple, ils ont détruit la muraille de la ville, ils ont exilé d'abord les élites du peuple et puis toute une partie de la population, au loin, à des centaines de kilomètres de là, à Babylone. Un peuple en exil, un peuple sans terre, un peuple qui a perdu son identité avec le temple qui n'est plus là, c'est un peu un peuple mort. Le peuple d'Israël, au temps d'Ézéchiel, se considère comme un peuple mort. C'est d'ailleurs ce que dit le verset 11. « Ces ossements, dit le Seigneur, c'est toute la maison d'Israël. » Ils disent « Nos ossements sont desséchés, notre espoir s'est évanoui, nous sommes perdus. » Voilà dans quel contexte Ézéchiel reçoit cette vision. Et le message central au cœur de cette vision, c'est de dire qu'il y a, contre toute espérance, un espoir qui demeure pour le peuple. Ce peuple exilé, perdu, a encore un avenir, parce que le Seigneur a en réserve des promesses pour son peuple. Dieu promet ici, comme il l'avait fait à d'autres endroits et comme il le refera encore, on a plusieurs textes, plusieurs visions dans ces quelques chapitres d'Ézéchiel qui ont cette même thématique, Dieu promet de restaurer son peuple. Il leur promet qu'ils retourneront dans leur pays, qu'ils ne seront plus un peuple en exil, qu'ils retrouveront leur terre, qu'ils retrouveront leur temple, qu'ils retrouveront leur Dieu. Je mettrai mon souffle en vous, c'est le verset 14, et vous reprendrez vie. Je vous ramènerai sur votre terre, la promesse du Seigneur. Cette vision ici déborde le cadre historique d'Ézéchiel. Parce que quelques décennies plus tard, de fait, le peuple d'Israël est retourné en Judée. Ils ont reconstruit les murailles, ils ont rebâti le temple. Et ils ont retrouvé un chemin vers le Seigneur. Il suffit de lire notamment les livres d'Esdras et de Néhémie qui relatent un peu tous ces épisodes. Mais derrière cette vision si forte, si poignante de ces ossements desséchés qui reprennent vie, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une lumière plus grande que le simple retour de l'exil. « Je vous ferai sortir de vos tombes, dit le Seigneur. » Il parle d'une véritable résurrection. Et comment, en parlant de résurrection, ne peut-on pas penser à la lumière, à la pleine lumière de la résurrection du Christ? C'est en lui que le retour à Dieu ultime est possible. Et cette vision nous montre un Dieu, notre Dieu, qui est capable de redonner vie à ce qui est mort et sans espoir. C'est le message d'espérance de cette vision. Dieu peut redonner vie à ce qui est mort et sans espoir. Mais pour cela, il faut d'abord présenter, comme dans la vision, cet état de dessèchement. Desséché. Et le Seigneur prend le temps, au début de cette vision, pour qu'Ézéchiel comprenne bien la situation. Au verset 2, il nous est dit que Dieu envoie quelque part dans sa vision le prophète dans cette vallée, qu'il la place, il le place au milieu de cette vallée, qu'il le fait passer tout autour et au milieu de ses ossements. Et tout cela conduit au constat du prophète, les ossements sont très nombreux et très secs. Mort et bien mort. C'est un cimetière à ciel ouvert. Il ne reste plus que des ossements. La situation est vraiment désespérée. Et lorsque le Seigneur pose une question ici à Ézéchiel, elle peut nous surprendre. Ces ossements pourront-ils revivre ? Bon, imaginez-vous la place d'Ézéchiel, on vous pose la question, vous répondez quoi ? Bah non, faut pas rêver, hein. Non, il y a une telle insistance, ils sont très nombreux et très secs, il n'y a plus de vie en eux. Ces ossements peuvent-ils revivre ? Bah non, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas ce que répond Ézéchiel. Il dit pas non, Seigneur, c'est pas possible. Il lui dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Ces ossements très desséchés peuvent-ils revivre ? Seigneur, si tu me poses la question, c'est peut-être que tu as une idée derrière la tête. Tu le sais. Et cette formulation de la réponse d'Ézéchiel, quelque part, montre que le prophète a conscience que, évidemment, d'eux-mêmes, chez les ossements, il ne reste plus rien. Ils ne vont pas revivre d'eux-mêmes. Mais en se tournant vers le Seigneur, en disant, Seigneur, toi tu le sais, il laisse entendre que s'il peut y avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'espoir, c'est seulement si le Seigneur fait quelque chose. Seulement si le Seigneur intervient de manière spectaculaire, extraordinaire. Et c'est bien ce qui se passe dans la suite de la vision. Ces ossements desséchés dans la vision d'Ézéchiel sont l'image de l'état de désespoir profond dans lequel se trouvait le peuple d'Israël. Et la réponse que Dieu apporte dans cette vision, c'est de dire « Vous pouvez retrouver l'espoir, parce que j'ai encore des promesses pour vous. » Je me demande si on ne peut pas s'autoriser un parallèle entre la situation de désespoir dans laquelle se trouvait le peuple d'Israël en ce temps et des situations de dessèchement que vous et moi pouvons connaître aussi dans notre vie, y compris notre vie spirituelle. Ne nous arrive-t-il pas parfois d'avoir l'impression spirituellement de n'être plus que des eaux secs, un sentiment de dessèchement spirituel? On a perdu l'envie, l'espoir, la motivation. Il nous faudrait un peu d'espoir, mais on n'en a plus. On n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie d'aller au culte, on n'a plus envie de témoigner de sa foi. On passe par des doutes, des questions, des remises en question. On a presque parfois un sentiment d'être en exil loin du Seigneur, loin de la communion avec Dieu qu'on avait avant. Et on regarde peut-être avec nostalgie le temps béni de notre conversion, comme le peuple d'Israël regardait avec nostalgie en direction de Jérusalem, où ils ont laissé leur temple. Nous sommes comme des eaux desséchées. Parfois, nous sommes dans une situation, en état de cœur, un sentiment proche de celui des exilés à Babylone. Et pas plus pour eux que pour nous, les ossements desséchés ne reprennent vie tout seuls. La vie ne revient pas toute seule. Ne pensons pas que finalement, avec le temps, ça reviendra. Je crains que le temps n'y fasse rien, sinon peut-être d'accentuer le dessèchement. Il faut l'intervention du Dieu, de Dieu, pardon. Il faut son souffle pour redonner vie à nos cœurs desséchés. C'est là que se trouve l'espoir. Pas dans le temps qui passe, pas dans telle technique psychologique ou spirituelle, mais juste, seulement, dans le souffle de Dieu qui redonne vie. Parce que si le début de cette vision commence dans le dessèchement, il se termine dans la résurrection. Desséché, oui, mais ressuscité. Ici, on assiste dans la deuxième partie de cette vision à une résurrection, une recréation de la part de Dieu. Un récit qui finalement se rapporte sur certains aspects avec le récit de la création du chapitre 2 de la Genèse. Une création qui se fait en deux temps. Lorsque Dieu a créé l'homme dans Genèse 2, on nous dit qu'il l'a façonné à partir de la poussière du sol et, deuxième temps, qu'il a soufflé dans ses narines le souffle vital. Alors, l'homme devint un être vivant. Voilà ce que nous dit le texte de la Genèse. C'est intéressant de voir qu'il se passe un peu la même chose ici. Dans un premier temps, le Seigneur, alors il ne va pas façonner à partir de la poussière du sol, il va refaçonner à partir des ossements desséchés qu'il rassemble, qu'il habille de nerfs, de tendons, de chair et de peau. Mais, nous dit le prophète, il n'y avait pas le souffle. C'est ce qu'il dit au milieu de la vision. Il manque encore quelque chose. Pour l'instant, ce ne sont que des morts vivants, des cadavres debout, sans le souffle de Dieu. Et il faut, dans un deuxième temps, que le souffle de Dieu vienne animer ces êtres de chair reconstitués pour qu'ils deviennent des êtres vivants, qu'ils redeviennent des êtres humains. Revenir dans le pays pour le peuple d'Israël ne suffira pas. Il ne suffira pas de revenir en Israël pour parler véritablement de résurrection. Il faudra que ce retour dans le pays s'accompagne d'un retour au souffle de Dieu, d'un retour à Dieu. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé hein, quand on regarde justement, on lit les livres d'Esdras et de Néhémie, il y a eu un grand mouvement de retour au Seigneur, de redécouverte de sa loi et de sa parole. Et il y a là à la fois un appel, un avertissement adressé au peuple d'Israël dans ce contexte, que nous pouvons recevoir pour nous aussi. Nous dire que même si nous sommes peut-être dans un état de dessèchement spirituel, un espoir est possible, parce que le souffle de Dieu est là pour revitaliser, redonner vie. Mais c'est bien là que se trouve notre secours et pas ailleurs. Sans le souffle de Dieu, nous ne serons rien d'autre que des cadavres. C'est d'ailleurs ce qui est dit ici dans ce texte. Le Seigneur dit au prophète, dire au souffle, souffle sur ces tués, entre guillemets. On pourrait dire, c'est d'ailleurs comme ça que traduit la Bible en français courant, souffle sur ces cadavres. Même avec la chair, la peau et tout autour, ils ne sont encore que des cadavres. Sans le souffle de Dieu, sans le souffle de Dieu dans notre vie, nous sommes des morts vivants. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, dit à ses lecteurs, épître aux Éphésiens, épître aux Colossiens, avant, vous étiez morts. Avant, c'est avant que le souffle de Dieu ne vous anime. Avant d'avoir reçu le salut en Jésus-Christ, vous étiez morts. Vous vous croyiez vivants, mais vous étiez morts. Et cette vision d'Ézéchiel nous rappelle que notre vie se trouve dans le souffle vital de Dieu, que nous sommes appelés tout à nouveau à recevoir. Nous sommes appelés à rechercher ce souffle de Dieu. Un souffle qui seul est garant de notre vie et de notre résurrection spirituelle. Rechercher ce souffle pour nous, pour notre vie, pour notre Église. Dans notre vie, ce souffle vital de Dieu, on en a besoin pour vivre des résurrections, pour redonner vie à notre cœur qui se dessèche, pour nous donner la patience dans l'épreuve, pour nous donner la joie dans les souffrances, pour nous donner l'espérance dans le doute, pour nous donner la délivrance, la guérison, l'espérance. Tout cela est possible par l'Esprit de Dieu. Mais rien de tout cela n'est possible sans son Esprit. Nous en avons besoin dans notre vie, nous en avons besoin dans notre Église. Le souffle de Dieu doit habiter nos structures, nos projets, nos activités. Vous savez, une grande Église, bien structurée, avec de beaux locaux, bien organisée, elle peut être morte si elle n'est pas animée du souffle de Dieu. Et alors que nous sommes engagés, vous savez, dans les réflexions sur l'avenir de notre Église, ne négligeons pas cet aspect essentiel de demander au souffle de Dieu d'animer nos projets, nos structures, notre vision personnelle et d'Église. Alors voilà, simplement pour conclure, dans sa vision ici, Ézéchiel passe vraiment du cauchemar au rêve. Et c'est peut-être un peu le chemin que Dieu nous invite à emprunter chacun pour notre part. Tout commence dans la prise de conscience de notre état de mort spirituelle sans lui. Il faut avouer que se voir comme un tas d'ossements desséchés, c'est pas très agréable. Mais quelque part, ça doit commencer par là. Reconnaître que notre vie est en Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il est le créateur de toutes choses. Il peut tout créer, tout recréer. Lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts peut insuffler son souffle vital dans notre vie et raviver notre cœur parfois asséché. Mais ne nous arrêtons pas à un simple remodelage de surface dans notre vie ou dans notre Église. Ne nous arrêtons pas au milieu de la vision d'Ézéchiel, là où il manque encore le souffle. Accueillons ce souffle vital de Dieu, le souffle de son Esprit, celui qui transmet la vie de Dieu. Sans lui, nous sommes morts. Mais avec lui, nous sommes vivants. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Amen.